Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le Québec décidé, ça me fait rire un peu, mais quoi que les Canadiens sont pas mieux. Je sais plus où j'ai entendu ce parallèle-là, mais tu peux les enfermer 3 ans puis décider comment ils respirent, ils disent pas un mot. Mais n'est pas me parler de décider pour nous-mêmes. Arrêtez-moi ça. Bon, ok, j'ai lu une biographie de Trudeau papa récemment. Tout un homme, très très loin du fils. Très loin du fils. Mais les deux avaient des sympathies pour le gouvernement communiste chinois, c'est bien connu. On en parle avec Éric Debroise, qui est au bout du fil, dont je m'ennuyais. Salutations, mon ami.
Salut, comment ça va?
Ça va bien, toujours des bons sujets. Et bon, on a une espèce de crise supposée entre les diplomaties canadiennes et chinoises présentement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il est question, notamment avec un Canadien, un député qui est menacé au Canada par un diplomate chinois, carrément?
Ah oui, carrément un diplomate chinois. On va donner son nom une seule fois, puis après on parlera de lui comme diplomate chinois, parce que ça va être trop compliqué, mais c'est Zhao Wei. Okay. C'est un diplomate qui a fait pression directement sur Michael Chong, qui est un homme politique canadien, connu donc pour son engagement chez les conservateurs. Ouais. Et il faut savoir que bon, lui, son père, il est d'origine chinoise et son père est de Hong Kong. Okay. Hong Kong, qui ville qui a été rétrocédée depuis les années 90. Ouais. On se souvient bien, année 1997. Et ce qu'a fait ce diplomate, c'est que il a cherché à faire pression sur la famille de Michael Chong, donc la famille éloignée à Hong Kong.
Ok.
Donc
oui.
Essayer de punir et essayer d'influer aussi de cette manière-là sur la politique canadienne. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, parce que on le sait, il y a quelques mois de cela, on a eu une analyse notamment de la GRC où il y avait eu des tentatives chinoises d'influer sur les élections fédérales, notamment sur des conservateurs, parce que les conservateurs sont plus opposés à la Chine que les libéraux.
Mais les libéraux, c'est des rouges. Ils ont l'air, dans énormément d'occasions, mais moi, ma perception va plus loin, mais tu sais, très sympathique, pour le dire gentiment, à la cause communiste chinoise.
Souviens-toi, Justin Trudeau qui avait dit qu'il était admiratif du gouvernement chinois. Donc déjà, en soi, on se demande ce qui se passe dans sa tête. Mais au-delà de cela, bon ben, il y a quand même beaucoup d'incohérences entre la famille Trudeau et le gouvernement.
Ben là, regarde, dans sa circonscription de Papineau, il y a eu 40 dons du maximum de 1 500 $ en une nuit. Et ça venait de ressortissants chinois établis à Vancouver. Quelques heures plus tard, il y a une banque chinoise qui a été autorisée.
Alors,
on se trouve 48 chums, on se part une banque. C'est pas facile de partir une banque au Canada. T'es assuré qu'après ça, ça va bien.
Là, tu pointes quelque chose de très important, et puis c'est pas du tout complotiste de le mentionner. Jean-François Lisée l'avait mentionné au moment de la COVID. Il y a des gens qui sont organisés au Canada, notamment des groupes chinois, et qui jouent le rôle de cinquième colonne dans notre pays.
Mais oui, aucun doute.
Aucun doute. Et il avait donné même un exemple pour ça, c'est que nous-mêmes, nos infrastructures, on manquait de gants, on manquait de masques, tout ça avait été acheté en grand nombre au Canada quelques semaines avant et envoyé en Chine par des gens qui justement étaient regroupés à Toronto et à Montréal, notamment dans les communautés chinoises. Non. On va pas faire on n'est pas là pour faire de.
On les bâche pas parce qu'on sait qu'il y a des unités de coercition. On n'appellera peut-être pas ça poste de police, mais pourquoi pas. Ils ont le gouvernement communiste chinois dans les jambes à plein puis au-dessus de la tête, pareil.
Il y a d'un côté des businessmen chinois qui vraiment répondent directement du gouvernement chinois ici au Canada. Et puis de l'autre côté aussi, on a des sortes de postes de police. On n'est pas trop sûr, mais en tout cas, effectivement, des postes qui jouent un rôle de coercition en soi même de la communauté chinoise. Ça fait quand même beaucoup d'éléments. Et le Canada, on est le pays qui est probablement le plus influencé, je veux dire, par la Chine dans le monde occidental. Vraiment, il n'y a pas un seul mois qui passe où on n'a pas un problème avec la Chine. Donc, il est peut-être temps que le gouvernement libéral prenne un bras de corps parce que c'est pas normal.
Là, ils essayent de montrer qu'ils ont un peu de toughness. En ce moment, ils ont expulsé un diplomate chinois. Waouh! Comme si ça allait faire trembler Pékin. Ça sent le théâtre.
Ils ont perdu leur baguette, tu vois. Ça y est, ils ont perdu leur baguette en Chine. Ils se sont dit, waouh, le Canada, ils expulsent un diplomate.
Non, mais
ce qui va se passer, c'est que c'est exactement comme on l'a fait avec la directrice de Huawei. C'est-à-dire, probablement, ils vont nous faire des mesures de rétorsion. Ils vont essayer d'emprisonner une ou deux personnes. Et puis, ils vont nous punir par ce biais-là.
On salue les deux Michaels qui, après être libérés d'années dans les geôles chinoises, se présentent à la Chambre des communes, encerclés par des dames chinoises inconnues et qu'on n'a jamais pu nommer.
Exactement, mais pour aucune raison. Et donc là, il faut vraiment qu'on prenne conscience que la Chine n'est plus la Chine qu'on a pu connaître il y a une dizaine d'années qui s'ouvrait sur le monde. On a la Chine de Xi Jinping qui de plus en plus devient plus autoritaire et donc même, vous le dire, moi là je critique actuellement le régime chinois, j'irai pas faire un voyage en Chine.
Non, capable de dire que
j'ai parlé à la radio, donc je suis assumé.
Non. C'est fini. J'aimerais ça, pour vrai. Puis, tu sais, j'ai de l'admiration pour ce peuple-là. Puis, je comprends, en plus, certaines de leurs motivations. Quand on regarde la guerre de l'opium, là, ce que l'Occident a fait subir aux Chinois, en quasiment obligeant le peuple de là-bas de se droguer à l'opium. Puis, sinon, ben, on défonce tout. Ben, en fait, on a fait les deux. Je comprends qu'il l'ait encore sur le cœur. Puis, je comprends que Hong Kong aussi l'avait sur le cœur, puis etc. Puis, qu'il y a une.
Mais tu sais, Guillaume, c'est une grande civilisation, on la reconnaît, mais il existe un contre-modèle au modèle actuellement chinois continental, ça s'appelle Taïwan.
Ouais.
Donc il existe un modèle chinois qui est libre et démocratique et qui est tout à fait capable d'évoluer avec le monde occidental et sur le monde. Donc c'est pour ça aussi que la défense de Taïwan, c'est pas simplement un enjeu militaire. C'est aussi la possibilité pour les Chinois de voir qu'il existe un bel et bien contre-modèle
d'arrêter
dans lequel ils peuvent évoluer.
la mentalité de vengeance. Là. C'est la même chose que je dis à des indépendantistes excités ici. Reviens-en, 1759, c'est pas sain de vivre dans le passé à ce degré-là.
Non.
Alors, on a fait le premier point, on s'en va en Russie, quoi.
Eh oui, la Russie, bon, ben, est-ce que la Russie peut perdre la guerre en Ukraine? C'est une question que je me suis posée, hein, et puis j'écoute beaucoup les médias européens, puis c'était la question de la semaine dernière.
Oui, parce qu'on a vu que le boss du groupe Wagner s'est plaint d'un manque de munitions. Là. C'est le pire problème que je vois les Russes avoir depuis de longs mois. Parce qu'avant ça, les succès étaient plutôt de leur côté. Alors,
ben,
c'est une question qui doit se poser.
Ben, la Russie, c'est un grand pays. Faut le rappeler, c'est le plus grand pays du monde. Ok.
Ouais.
C'est tellement grand que quand tu es à l'autre bout du pays et que toi, tu es à Moscou, il y a 11 heures de décalage.
c'est un bon exemple pour apprécier la grandeur géographique de la patente. Mais c'est ça, je sais où tu voulais aller. C'est un grand pays en termes de population, de moyens, incomparablement plus fort, plus puissant que l'Ukraine. D'ailleurs, sur leur territoire, ils ne se sont pas fait faire de problèmes beaucoup.
Exactement. Mais le problème, c'est que la Russie d'aujourd'hui, c'est pas la Russie de la Seconde Guerre mondiale. Ça a beaucoup changé. Mmh. Qui d'abord, il est possible de contester. On peut se renseigner sur l'extérieur. On vit pas dans un monde fermé.
Ouais.
Ensuite, la démographie russe, elle est en berne depuis la chute du communisme.
Ça, c'est exact.
Et ça, c'est un très gros problème pour la Russie, même pour le futur. Et cette guerre en Ukraine continue à saigner la Russie. On peut pas envoyer des gens comme ça à la boucherie, hein, comme le dit Wagner, justement.
Lui, il parlait de dizaines de milliers de morts. Moi, tu sais, les estimations les plus optimistes pour les pertes russes faisaient état d'une trentaine de milliers. J'ai l'impression que c'est plus, si lui mentionne des dizaines de milliers de morts, là, c'est pas deux, trois, c'est plus que ça.
Il est fort probable qu'il y ait beaucoup plus. Mais même si c'est pas des morts, des gens qui sont blessés, c'est pas mieux. Tu peux pas envoyer une personne où il lui manque une jambe ou même tu lui as tiré dans la jambe au combat. C'est pas plus utile non plus. Et puis en plus de cela, la Russie, elle a un gros problème, c'est qu'elle se manque souvent à elle-même. Hein, c'est la mentalité de corruption.
Ouais.
Et ça, on la retrouve à toutes les couches de la société, même en haut du pouvoir, on ne dit pas les vraies choses.
Poutine a de la misère à avoir des rapports précis parce que les gens veulent pas l'offenser, le brusquer, etc. Alors, préfère lui mettre des lunettes roses. Ça, c'est toujours mauvais pour un dirigeant. C'est du stalinisme à une échelle moins violente, là, mais ça reste que c'est ce genre de mentalité-là, comme tu disais.
Alors, mais ça reste que quand même, la Russie, ça reste quand même une grande puissance nucléaire, elle a une armée, faut quand même le considérer, la Russie, c'est quand même, ça reste quand même la Russie, voilà. Même si elle est déclassée par rapport à ce qu'elle était avant. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle a des avantages, c'est des géographiques, la population, son armée. Elle a quand même indirectement aussi la Chine de son côté.
Hein? Ben, indirectement. Attends. Est-ce que tu crois que la Chine n'est pas là dans une optique d'aide à grande échelle? Ils envoient des armes depuis avant, ils l'ont fait pendant. Ouais. C'est surtout des ressources, là. Mais tu sais, on n'a aucune idée de ce qui s'échange entre la Chine et la Russie, qui a une frontière commune, tu sais, qui n'a pas besoin...
En fait, il y a déjà des échanges, on le sait, c'est documenté, mais la Russie et la Chine, ça n'a jamais été l'amour fou entre ces deux nations.
Non. On en a profité à plusieurs occasions, mais là, on a oublié que c'est une chose qui nous a toujours favorisés. Et on les a poussés dans les bras l'un de l'autre. Mais est-ce qu'elle peut perdre? C'est une question qui demeure ouverte. Moi, je pense que... Éventuellement, je pense pas qu'on en est là. C'est peut-être souhaité par bien du monde. Est-ce qu'on doit souhaiter ça? Moi, je suis pas certain non plus.
Je dis toujours comme Maxime, enfin comme refrain, c'est elle ne peut pas vraiment perdre la guerre, mais elle ne peut pas non plus la gagner. Là, ben, c'est vraiment le statu quo.
On attend quoi pour faire des pourparlers de paix? C'est ça qui serait gagnant pour tout le monde. Mais en fait, moi, ce que je pense qu'on attend, c'est que les Américains trouvent satisfaisant le degré de dépréciation de l'armée russe puis de la puissance russe.
Exactement. Mais bon, en même temps, j'ai regardé l'histoire, la Russie, elle est quand même habituée aux défaites. Donc c'est un pays qui en a vécu sur un siècle. J'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défaites, en incluant aussi l'URSS.
Ouais.
Parce que c'est un pays qui a l'habitude des défaites. L'une des plus récentes, c'était l'Afghanistan. Mm-hmm. Donc ça ne va pas les amoindrir plus que cela. Si ce n'est que à l'échelle internationale, ils vont quand même rétrocéder leur place par rapport à d'autres puissances montantes comme on pense à l'Inde, le Brésil, etc. Donc, est-ce que la Russie peut perdre ? Bah, elle a, disons, abattu pas mal de ses cartes au début du jeu et l'Ukraine a monté en puissance avec l'aide occidentale.
Ouais, mais là, ça s'était résorbé. C'est en train de repartir, mais il est question de cette offensive-là depuis longtemps. Je veux juste citer Victor Bout.
À l'offensive.
Victor Bout, à qui j'ai parlé à quelques occasions, puis je parlais de WhatsApp tantôt, c'est notre moyen de communication qu'on imagine crypté. Là, ces temps-ci, ça sort que c'est une vraie farce. mais moi, ça me dérange pas que les services de renseignement checkent mes conversations avec lui, parce que c'est des questions candides que je lui pose. Et je lui demandais, exemple, si des Ukrainiens frappent en Crimée, frappent le territoire russe, qu'est-ce qui peut se passer? Puis il m'a fait remarquer que il y avait une intensification qui n'a jamais été amenée par la Russie, c'est-à-dire de frapper vraiment les centres de commandement à Kiev, de frapper les transports ferroviaires, puis de frapper les lignes de pas de communication, mais d'approvisionnement avec, exemple, la Pologne ou ça peut aller là s'ils veulent, là. Puis des visites surprises de gens comme Joe Biden, surprise entre guillemets, je me rappelle bien qu'il avait mis des guillemets, ça va être terminé.
Il y a un élément aussi que la Russie sous-estime beaucoup, c'est qu'il y a une haine assez commune de tous les pays d'Europe centrale et orientale à son égard.
Ouais.
Et cette haine est quand même assez... Enfin, elle est beaucoup plus forte qu'on peut le retrouver en Allemagne ou en France. Et moi, ça m'a toujours surpris de voir à quel point les Polonais, les Tchèques, les Estoniens, les Lituaniens, même les Roumains, quasiment couraient en disant « on est prêt à vous donner nos avions, nos chars, allez-y ». Pour moi, c'est dépouiller ton armée pour en donner une autre. Et c'est pas sûr de gagner. Mais il y a une haine commune qui est probablement issue de l'URSS. Hein, tous ces gens-là ont vécu sous l'URSS et ne veulent pas revoir une Russie puissante. Donc
impérialiste.
Exactement.
Ouais.
Et ça, c'est le gros problème aussi qu'on retrouve dans la mentalité russe. C'est dans son ADN. C'est une forme d'impérialisme qui a vocation à toujours s'étendre. Et donc là, les pays d'Europe de l'Est et centrale veulent s'y opposer pleinement. Et c'est les derniers nouveaux venus de l'OTAN. Donc, ils sont encore plus à fond dans cette démarche d'être contre la Russie que ne sont d'anciens alliés comme la France.
Très intéressant. Comme d'habitude, Éric Debroise, on va se laisser là-dessus. Le temps de l'émission est déjà terminé. Mais je pense que tu as fait une belle contribution encore une fois. En une vingtaine de minutes, on a fait un tour d'horizon d'une question complexe, assez profond. Merci.
Avec plaisir.
À bientôt, mon ami. Éric Debroise, mesdames, messieurs, suivez-le sur les réseaux sociaux. Et même chose pour moi, on va tweeter ce soir peut-être. Chico?
Hey, bonne nouvelle en conclusion d'émission. L'enfant a été retrouvé sain et sauf, donc l'alerte Amber qui est conclue.
Ça, c'est-tu pas merveilleux? Merci pour ceux qui ont texté au 88-903-5969. Continuez. La Tanière du Tigre est absente ce soir. Ça va être la meilleure playlist au monde qui se met en place. Manquez pas et pas urbain aussi. De toute façon, les mardis, ça sonne rap à CJMD, la seule alternative hip-hop au Québec. Fait que Lado, Rhymes, Corias dans les prochaines minutes. Entre autres, bonne soirée des paupiètes. À demain.